Radio Kapi. Oh, Kapi.
À la une, Jean-Marc Kabound a signé en résidence surveillée par la Cour de cassation. Ses avocats plaident d'ores et déjà pour une assignation à son domicile de Kingabo à Kinshasa et François Béa, lui, doit attendre lundi pour savoir s'il sera en liberté provisoire ou non. Lutte contre l'insécurité dans la ville de Butembo, Nord Kivu. Le Conseil urbain de la jeunesse appelle les jeunes en particulier à se désolidariser de toute initiative violente. Appel lancé hier 12 août à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse. Et puis, Noël Tchiani Mwadiamvita est notre invité ce matin. Économiste et ancien fonctionnaire de la Banque mondiale, en séjour à Mbujimayi, il donne ici quelques pistes pour la relance économique du Grand Kasaï. Madame, Messieurs, bonjour. Justice tout d'abord. La Cour de cassation décide d'assigner Jean-Marc Kabound en résidence surveillée dans un cadre à déterminer par le parquet général. Mais ses avocats ont plaidé pour une assignation à domicile, donc dans sa résidence de Kingabo à Kinshasa. Par ailleurs, l'ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité devra attendre lundi pour savoir si la liberté provisoire lui sera accordée ou non. C'est un reportage de Jeff Ngoy rendu par Alain Rongmouching.
Juste après l'audience de ce vendredi en chambre du Conseil, l'ancien premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale est allé à la prison centrale de Makala pour récupérer ses effets, selon les déclarations de ses avocats. Cependant, nous apprenons des autorités pénitentiaires de la prison centrale de Makala qu'il est toujours à la prison aussi longtemps qu'il n'y a aucun document reçu de la Cour de cassation parlant pour son départ de la prison. Par ailleurs, cette fois-ci, dans une autre affaire concernant le ministère public contre François Béa et consorts, ce vendredi devant la haute cour militaire, l'ancien conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité saura lundi prochain s'il va obtenir ou non sa liberté provisoire afin de se faire soigner. La haute cour a examiné le rapport médical de son médecin qui conclut à la maladie de François Béa et ses co-accusés sollicitant ainsi tous une liberté pour raison de santé.
En réaction, le parti Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound estime que la Cour de cassation vient d'augurer un retour au bon droit. Le porte-parole de ce parti l'a déclaré hier à Radio Kapi. On écoute Ghislain Mwangi dans cet extrait proposé par Alain Rongmouching.
Le président de l'Alliance pour le changement, l'honorable Jean-Marc Kabound Akabound, est un apôtre d'un véritable changement. En ce jour, la Cour de cassation vient d'augurer un retour au bon droit. Nous l'espérons. En application à l'article 76 alinéa 3 de la loi relative à la procédure devant elle, la Cour de cassation permet que la loi l'emporte sur l'arbitraire, tel que procédé par le parquet général en plaçant le président Jean-Marc en détention préventive à Makala. À ce jour, le président Jean-Marc Kabound Akabound est placé sur ordonnance de la Cour de cassation en résidence surveillée conformément à la loi. Et nous attendons l'ultime changement, qui est d'ailleurs l'application stricte et immédiate de l'article 107 de la Constitution alinéa 1, qui stipule clairement qu'aucun parlementaire ne peut être poursuivi pour des raisons d'opinion ou de vote exprimé. Nous avons espéré qu'avec le concours de nos magistrats, nous allons crédibiliser quand même l'appareil judiciaire congolais et lui éviter de subir en temps réel les dictats des hommes politiques.
Je vous le disais en titre, à Butembo, le Conseil urbain de la jeunesse appelle la population, particulièrement les jeunes, à se désolidariser de toute initiative violente au nom de la sécurisation de la ville. Franck Mukenzi, président de cette structure étatique d'encadrement des jeunes, a lancé cet appel vendredi à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse. D'après lui, la ville de Butembo est déjà infiltrée et la population doit plutôt collaborer avec les autorités et forces de sécurité au lieu de s'attaquer à elles. On écoute Franck Mukenzi.
Compte tenu de la situation dans laquelle nous célébrons ce mois de la jeunesse, aujourd'hui, c'est de comprendre que toute lutte qui doit être menée par la population ne doit à jamais avoir une arme. C'est pour cela que j'interpelle encore nos amis, tout le monde, de comprendre qu'à vouloir participer à la sécurisation de la ville, on ne devrait pas être à contradiction ou à couteau tiré avec les autorités politico-administratives de la ville. Mais j'ose croire que nous sommes arrivés à un niveau de filtration de grande envergure. notre ville est déjà infiltrée. Comprenez, chers jeunes, qu'il doit y avoir parmi nous aussi ceux qui peuvent être en train de collaborer avec ces ennemis. Nous devons savoir comment les traquer et travailler en collaboration avec toutes nos autorités, toutes nos forces de sécurité, pour qu'ensemble nous puissions mettre hors d'état des murs tous ces bandits et dénoncer tous ces gens-là qui sont prêts à planifier des actions violentes. La ville de Boutembo est réputée pacifique, une ville de la non-violence. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement, semble vouloir nous récupérer cette bonne qualification.
Province de l'Ituri, 9 personnes grièvement blessées lors des dernières atrocités commises dans le territoire de Djougou ont été évacuées hier à Bounia par un hélicoptère de la MONUSCO. C'était en présence des députés nationaux, provinciaux et des notables de la communauté Lori. Selon le chef de bureau de la mission onusienne en Ituri, il s'agit des civils victimes de l'attaque de la milice Zaïre à Dala le 5 août dernier. Karna Soro indique que cette assistance humanitaire fait suite à une demande du gouverneur de cette province. À l'occasion, il a lancé un appel à toutes les communautés pour une cohabitation pacifique entre elles et aux groupes armés de rejoindre le processus DDRCS pour un retour définitif de la paix en Ituri. Aussi, le numéro 1 de la MONUSCO en Ituri assure la disponibilité des Nations Unies à accompagner le gouvernement dans la recherche de la paix. On écoute Karna Soro.
Comme vous le savez, le gouverneur est en même temps le chef des opérations dans la zone. Donc c'est à ce titre-là que le gouverneur mobilise toutes les énergies qui sont autour de lui pour appuyer la communauté. Et c'est dans ce sens qu'il a sollicité la MONUSCO pour appuyer, pour qu'on puisse appuyer le transfert de ces blessés. Comme vous avez vu, certains d'entre eux sont dans un état grave. Vous avez vu la dame. C'est une innocente personne civile qui malheureusement a pris une balle. Et donc on a encore une fois, je profite pour en appeler aux communautés. Tous ces jeunes gens que vous avez vus, ce sont des jeunes gens qui appartiennent à ces communautés. Vous avez vu cette maman qui est blessée, elle appartient à cette communauté. C'est pas des étrangers, c'est pas des gens qui viennent d'ailleurs. Et donc, il est grand temps qu'on arrête. Il est grand temps qu'on saisisse l'opportunité qui a été donnée par le président de la République, déposer les armes, rejoindre le processus DDRCS et arrêter la souffrance des communautés. C'est le message que la représentante m'a demandé de passer à l'issue de cette opération-là. Mais la MONUSCO reste disponible. Comme vous le savez, nous avons des contingents opérationnels en appui au FRDC dans la zone, mais aussi nous continuons à soutenir du point de vue humanitaire si nécessaire.
Pour sa part, la communauté Lori remercie la MONUSCO et les autorités provinciales pour cette action qui, selon elle, va sauver les vies humaines. Elle réitère les vœux de voir les violences cesser et la paix gagner les cœurs et les esprits au sein des communautés vivant en Ituri. Un de leurs représentants s'est exprimé en ces termes.
L'émotion est vive, notamment pour notre communauté. Endeuillée depuis le 6 août, la communauté a perdu 26 personnes et au moins 15 blessés. Nous avons le premier blessé, l'émotion est vive, nous sommes à deuil, mais il faut tous dépasser. Il faut que nous puissions évoluer avec l'État, que nous puissions nous investir tous dans le processus de paix. Mais il ne faut pas continuer à le perdre. Si on peut en sauver, c'est une très bonne chose. Donc nous remercions le gouvernement de la République, nous remercions notre partenaire, la MONUSCO, qui a mis la SIC appropriée pour que ça puisse nous permettre d'assurer une prise en charge valable des blessés.
Notons que 2 autres blessés seront évacués ce samedi vers Bounia. Pour rappel, l'attaque du 5 août dernier à Dala a fait 26 morts. C'est un dossier signé Martial Kizabiamongo. Direction la province du Congo central. Plus de 350 personnes passent la nuit à la Belle Étoile au village Ntuala, groupement Louvaka, secteur de Gombe Sud, territoire de Mbanzangungu. Leurs maisons évaluées à plus de 60 ont été incendiées le mardi 9 août dernier par des personnes non identifiées à cause d'un conflit de terre opposant 2 communautés. Le député national Jacques Lungwana, élu de Mbanzangungu, a effectué une descente hier sur le lieu du drame et affirme que jusqu'à présent, aucune disposition n'est prise pour la sécurité des sinistrés et pour les abriter. Le point avec Nana Plurich Mambou.
En conflit foncier, les villages Ntuala 1 et Ntuala 2 sont en procès depuis plus de 2 ans devant le tribunal de grande instance de Mbanzangungu. Et cette juridiction tarde à rendre sa décision, affirme l'élu de Mbanzangungu, le député national Jacques Lungwana. La même source renseigne que pour se faire justice, ceux du village Ntuala 2 ont mis le feu au village Ntuala 1. Après avoir mis le feu dans Ntuala 1, ils sont aussi allés mettre le feu dans leur propre village, Ntuala 2, et ce avant d'avoir évacué tout leur bien, précise la même source. Dans ces drames, plus de 60 maisons, une boutique, une pharmacie et une moto sont parties en fumée. 4 personnes sont blessées grièvement par les armes blanches. Les femmes et les enfants du village Ntoala 1 sont entassés dans 4 familles d'accueil. Les hommes, quant à eux, dorment à la belle étoile, à la merci des intempéries. Ces sinistrés manquent de tout, du fait que tous leurs effets ont été tous brûlés, affirme l'élu de Mbanzangungu. Pour prévenir les représailles entre les deux communautés, Jacques Lungwana a réquisitionné les policiers du sous-commissariat de Louvaka dans ces villages, en attendant l'intervention du gouvernement provincial et du ministère des Affaires humanitaires. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Le groupe TEXAF alerte l'opinion sur des travaux clandestins de mesurage et morcellement frauduleux sur des terrains de la concession UTEX Africa par un groupe d'ingénieurs et géomètres, opération contre toute attente qui a abouti à la destruction d'une partie du mur d'enceinte de la concession de sa filiale Imotex à Kinsuka, ici à Kinshasa. Cette destruction, regrette le groupe TEXAF, a facilité l'accès à quelques dizaines de hauts fonctionnaires civils et militaires pour y entreprendre des constructions anarchiques et illégales. Au cours d'un point de presse tenu vendredi à Kinshasa, l'avocat conseil du groupe TEXAF demande aux autorités compétentes d'instruire le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme et Habitat de s'abstenir de toute ingérence dans le déroulement des procédures en justice en cours sur la baie de Ngaliema. Maître Liévin Ngonji explique au micro de Billy Van Lutumba.
Le 27 juillet à l'aube, nous avons vu des engins de chantier venir sans coup férir casser le mur d'enceinte du Tex Africa et cet engin était accompagné, en tout cas protégé, par des hommes en tenue et en armes. La seule chose qui soit objective, c'est qu'ils avaient un ordre de mission signé par le secrétaire général au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Que personne ne prétexte avoir ignoré que le groupe TEXAF est victime des tentatives de spoliation de ses actifs par des gens qui sont revêtus de l'autorité de l'État. Vous avez compris qu'on nous pousse à bout pour relayer notre message, pour que les autorités, le président de la République, le premier ministre, les présidents du Conseil supérieur de la magistrature et toutes les autres autorités, chacun en ce qui le concerne, puissent comprendre que les droits d'un groupe sont mis en jeu et derrière ces groupes, c'est des milliers de familles, aussi bien de leurs travailleurs et agents, qui sont exposés à un danger.
Pour le groupe TEXAF, ces tentatives de spoliation sur son site UTEX Africa, baie de Ngaliema et Imotex CPA à Kinsuka constituent un signal négatif pour les investisseurs opérant en RDC et pour ceux qui envisagent de s'y installer. Rendons-nous dans la province de Maïndombe. Plus de 520 000 élèves du primaire sur 540 000 ont bénéficié chacun d'une moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action dans les établissements scolaires du primaire. C'est ce qu'a fait savoir mercredi le responsable de Chemonix lors des assises de validation des données de la distribution de ces intrants, assises qui ont eu lieu avant la clôture de l'année scolaire. Pour Nicolas Kenanewabo, malgré la déperdition de certains écoliers, Chemonix ainsi que d'autres partenaires du système éducatif et sanitaire ont atteint leurs objectifs, notamment la remise de ces moustiquaires aux élèves. Docteur Nicolas Kenanewabo en appelle à l'utilisation correcte et systématique de ces moustiquaires pour permettre aux bénéficiaires de lutter contre le paludisme. On l'écoute au micro d'Irène Boma.
Nous nous retrouvons dans la salle des cinquantenaires pour valider les données de distribution des mille qui ont été récoltées au niveau des écoles lors de la distribution. Lors de l'état des lieux, nous étions dans les 542 326 élèves. Mais lors de la distribution, après l'état des lieux, nous avons distribué 528 340 mille aux élèves de toute la province de Maïndombe. Les élèves que nous avons trouvés, puisqu'il y a eu des perdictions de certains élèves. Pour moi, les résultats que nous avons obtenus me réjouissent, puisque nous avons commencé et nous avons clôturé l'activité de distribution des mille dans la province de Maïndombe. Je demande aux parents d'aider les élèves qui ont reçu les mille à dormir sous moustiquaire. Que les parents n'utilisent pas les mille pour d'autres fins. L'utilisation des mille qui est de protéger les enfants contre le paludisme.
Actualité Afrique Monde.
L'Allemagne suspend jusqu'à nouvel ordre la majeure partie de ses opérations au Mali, décision prise hier après un nouveau refus de survol visant un appareil militaire allemand un refus de survol qui intervient alors que le ministre de la Défense malien avait lui-même donné son feu vert jeudi à son homologue allemande. L'armée allemande ne sera donc plus en mesure de soutenir les opérations de la MINUSMA. Sa présence au Mali se limitera désormais à des missions de sécurisation de ses propres soldats, a annoncé Berlin hier vendredi. La police fédérale américaine FBI a saisi des documents top secrets lors de sa perquisition chez Donald Trump. L'ancien président américain est en possible violation de la loi sur l'espionnage, selon le mandat judiciaire publié hier vendredi, une révélation qui pourrait nuire sérieusement à Donald Trump.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le professeur Noël Tiani Mwadianvita. Il séjourne à Mbujimayi depuis la semaine dernière. En tant qu'économiste et ancien fonctionnaire de la Banque mondiale, Noël Tiani dévoile quelques pistes pouvant permettre la relance économique du Grand Kassai et s'entretient avec Esther Dalafina.
Bonjour, professeur Noël Tiani Mwadianvita. Vous êtes en Mbujimayi au Kassai oriental. Quel est le but de votre mission?
Mon séjour ici, c'est quelqu'un qui vient chez lui. Quand on vient chez soi, on n'a pas d'explication à donner à qui que ce soit. Mais au-delà de cela, j'ai eu aussi l'occasion d'enseigner à l'université officielle de Mbujimayi aux étudiants d'avant-dernière année, dont les cours d'économie, de banque et de finances. Au-delà de cela, j'ai animé des conférences au club de la MIBA, mais également au projet d'Itunga en Ganagique. Et j'ai fait le tour de quelques territoires. J'ai été à Lopouta, à Mwenedutu. L'objectif ici, c'est de prendre connaissance de première main pour voir quelle est la situation du Grand Kassai sur le plan du développement, les conditions dans lesquelles les Congolais vivent ou les Kassaïens vivent, et qu'est-ce qui explique le fait qu'il y a beaucoup d'exodes qui amènent les Congolais ou les Kassaïens à partir du Grand Kassai vers le Katanga ou bien vers Kinshasa ou vers d'autres provinces. C'est une mission de reconnaissance de ce qui se passe sur le terrain.
Professeur Noël Tiani, vous êtes ancien fonctionnaire de la Banque mondiale. Vous êtes en même temps économiste. Compte tenu de la situation actuelle de la MIBA et de la SNCC, qu'est-ce qui peut être fait pour relancer l'économie dans le Grand Kassai?
Oui, l'économie du Grand Kassai se trouve dans un état de marasme total, une situation désespérée. Et c'est ce qui explique le fait qu'il y a beaucoup de Kassaïens qui quittent le Grand Kassai pour émigrer vers d'autres provinces. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je propose un mini plan Marshall pour le redressement du Grand Kassai. Le mini plan Marshall comprendra les composantes suivantes. 1. D'abord, la mobilisation d'une aide nationale et internationale urgente pour venir en aide aux plus démunis. Et il n'y a pas à avoir honte. On a connu par exemple l'Éthiopie qui connaissait donc une situation désespérée. On a mobilisé l'aide internationale pour l'Éthiopie. Pourquoi pas le faire aussi pour le Grand Kassai? Parce qu'on est dans la même situation aujourd'hui. 2. Il faudrait qu'on puisse remettre en place des infrastructures de base qui manquent. Construire quelques routes, et j'ai identifié 3 routes principales pour connecter les 5 provinces du Grand Kassai afin de faciliter la fluidité, les mouvements des personnes et des biens de façon responsable. Au-delà de cela, il faut restructurer les entreprises qui sont en difficulté aujourd'hui. Celles qui existent, comme la MIBA, il faut les restructurer. Et la MIBA ne demande qu'environ 350 millions de dollars. Pour un grand pays comme la RDC, nous devons être en mesure de dégager cela, soit du budget national, soit aussi, on peut mobiliser cela, des bailleurs de fonds, tant privés qu'internationaux. Mais nous devons aussi relancer le secteur du développement agricole, d'élevage et de pêche. C'est un secteur qui est porteur et on peut mécaniser l'agriculture, l'élevage et la pêche. Mais au-delà de cela, on peut relancer les entreprises qui ont existé dans le temps et qui ont disparu, manque d'entretien, manque donc d'investissement, tel que la Cotongo qui faisait la culture donc du coton, tel que l'Onafitex qui achetait les produits vivriers. Et on peut lancer aussi par exemple une usine de traitement d'huile de palme qui donnerait par exemple des produits dérivés au sein avons à l'huile de palme, ainsi de suite. On peut lancer une usine de fabrication de ciment. On a besoin du ciment pour reconstruire le Grand Kassai. Et il faut aussi relancer la petite industrie. Nous avons quelques minerais ici qui ne sont pas exploités. On a découvert tout récemment qu'il y a donc du pétrole, par exemple, du côté de Lusambo. Il faut arriver à mettre en valeur donc ces minerais-là et chercher à transformer les matières premières que nous avons, telles que le maïs, le manioc, le coton, et essayer de les transformer en produits finis ici, en mettant la petite industrie telles que les minoteries ainsi de suite. Pour arriver à le faire, il y a un autre volet qui est important, la provision de l'eau et de l'électricité. Il y a 4 barrages hydroélectriques qui sont importants et qu'on peut promouvoir. Le barrage de Kafumbo en Ganajika, le barrage de Mushi à Kabinda, le barrage de Tchala à Mbujimayi, mais aussi le barrage de Katende dans le Kasaï central. Ces 4 barrages peuvent régler le problème de la disponibilité de l'eau et de l'électricité. En plus des investissements dans l'éducation et la santé, je pense que les conditions de relance économique seraient plus ou moins donc garanties.
Le gouvernement congolais a lancé récemment le programme de développement local de 145 territoires. D'après vous, professeur, que peut faire la RDC pour que ce programme améliore les conditions des habitants vivant dans les milieux ruraux?
Je vais être sincère avec vous, j'ai entendu parler de ce programme-là, je ne connais pas ce que ça comprend exactement.
Professeur Noël Tchani, Modianvita, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier. Je voudrais en profiter pour dire bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi à partir de Mbujimayi dans le Grand Kasaï.
Notre invité, économiste et ancien fonctionnaire de la Banque mondiale, répondait aux questions de Esther Ndalafina. C'est la fin de ce journal supervisé par Alain Rungo-Shinj. Merci de nous avoir suivis.